Alors, est-ce que le direct... Oui, c'est lancé. Bonsoir à tous. Eh bien, vous êtes... je suis en direct de Palerme, toujours ma dernière semaine avant ma rentrée en France ce dimanche. Palerme où il fait bien gris d'ailleurs. Je ne sais pas si en France la température s'est relevée et le soleil est revenu. Ici... Il y a pas mal de grisailles, de pluie, pas toujours très chaud. D'ailleurs, ce soir, j'ai un petit gilet. Donc, voilà. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir encore une fois Bernard Clavière. Bonsoir, Bernard.
Bonsoir Marie, bonsoir à tous et à toutes.
Donc, on s'est lancé sur une émission que l'on a nommée Vivre, on l'a nommée Vivre l'instant présent. Alors, c'est pas tant qu'on va vous parler de c'est quoi vivre l'instant présent, c'est parce que, en fait, on s'est dit, puisqu'on avait envie de se voir et de causer un petit peu ensemble et de partager avec vous, et on s'est dit, bah, tiens, on va laisser émerger le sujet qui sera OK pour tous les deux le jour J. On n'a pas eu envie de programmer, hein, vraiment. Alors, c'est ça, vivre l'instant présent, c'est-à-dire qu'on est dans l'action.
La spontanéité.
Voilà, la spontanéité. Et donc, ce qui nous est venu, alors, même si j'ai tout un tas de petites questions à te poser par rapport à ce qui se trame cet été, mais on verra ça après. Ce qui a émergé, c'est que tu avais envie, parce que c'est quelque chose qui titille beaucoup, et justement moi aussi, donc nous avons envie de parler d'amour. Voilà, parce que toi, bon, bah, tu es, comment dire, j'irais un spécialiste de la nourriture vivante, on va appeler ça comme ça.
Modestement, oui, des
Ouais.
moyens naturels de santé. Je raconte un petit peu comment j'ai fait pour me libérer de tous mes problèmes de santé.
Et
Et oui.
donc, tu me disais juste avant de démarrer l'émission, ce sur quoi je suis entièrement d'accord, parce que c'est les propos vraiment que je tiens depuis plusieurs mois déjà, c'est que la première des nourritures, c'est l'amour. Alors, comment tu nous amènes ça, Bernard?
Effectivement, j'évolue, parce que nous évoluons tous, et heureusement, dans mon discours, je ne remets rien en cause, mais je dose différemment plus j'avance. Je dose différemment ce qui ne sont que des moyens, de santé du corps physique et ce qui sont des moyens de santé du corps émotionnel, du corps mental. Je donne de plus en plus d'importance à ces aspects-là, à ces forces de guérison extraordinaires, donc, que sont la gestion saine de nos émotions, la culture d'émotions positives qui favorisent la guérison, qui favorisent l'évolution. Et donc, la première de ces émotions positives, c'est forcément l'amour. On verra que l'amour, ça se décline de multiples façons. L'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est la bienveillance qu'on exprime à l'égard de tous et de tout l'univers. À l'égard de gens qui n'ont pas les mêmes idées que nous, à l'égard de gens qui nous font peur, à l'égard de gens qui nous ont offensés, de gens qui nous ont agressés, de gens qui nous ont fait du mal, qui nous ont nui. Ça va très très loin. L'amour, c'est pas juste, oh ouais, on s'aime les uns les autres et puis tout va bien. C'est un travail de, j'allais dire de toute une vie, non? C'est un travail de multiples incarnations, de milliers de vies avant d'arriver à ne plus être que l'amour, c'est-à-dire à revenir à notre source. Voilà.
Alors, tout à l'heure, tu me disais que finalement, on peut avoir la meilleure alimentation du monde si on n'est pas en paix avec le monde et si on cultive encore des ressentiments, des rancœurs par rapport à des personnes ou à
pratique,
des
ouais.
situations, ça peut être, c'est cause de maladie, c'est cause de mauvaise santé.
Bien sûr, bien sûr. Le jeûne est important, j'allais dire à un niveau grossier. Le jeûne va bien sûr faire un travail de nettoyage profond de notre véhicule physique. Mais tant que l'on aura de l'animosité, du ressentiment, de la haine envers qui que ce soit ou quoi que ce soit, on ne pourra pas être en bonne santé. Et l'on va s'exposer à des manifestations pathologiques. Donc ça va très très loin, parce que nous avons tous dans notre vie des gens que l'on aime plus que d'autres, et des gens que l'on aime moins que d'autres, et des gens que l'on aime vraiment pas, et peut-être parfois, malheureusement, des gens que l'on ne peut pas voir en peinture, et sur lesquels on se laisse aller, et effectivement, à parler, à dire du mal, et à critiquer... Ça, on en est tous là, et ce serait une illusion que de se dire « Oh là là, je suis amour, tu parles ». Je n'y crois pas une seconde. Autant je crois à la méthode Coué, bien utilisée, la puissance de la pensée positive est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est une pratique qui demande à être pratiquée correctement et scientifiquement. Mais moi, je vois beaucoup de gens dans le nouvel âge là, qui transmettent sur Facebook de façon compulsive des images belles de fées, de lutins, de cœurs, de roses, de fleurs, machin. Là, ça va. Franchement, ça fait pas de mal, hein. Mais ça va pas loin. Ça ne suffit pas. Cultiver l'amour, c'est apprendre qui nous sommes d'abord. Apprendre que nous sommes des étincelles divines. Et ensuite, ça demande à mettre en pratique les conséquences de cette perception. Si chacun de nous est une étincelle divine, ça veut dire que nous sommes tous issus du feu divin originel. Ça veut dire que nous sommes tous frères et sœurs. Ça veut dire que dans une famille, il y a aussi des problèmes dans des familles, mais normalement dans une famille, on s'aime tous. On est différent, mais bon, on a des liens familiaux, père, enfant, etc., parents, enfants, grands-parents, on est censé avoir un amour plus profond, plus particulier, plus parfait avec cet environnement familial. Mais si l'on admet et que l'on comprend qu'en fait, les 7 ou 8 milliards d'êtres humains sont de la même façon, tous issus du même Père, avec un P majuscule, bien sûr, du même Créateur. Eh bien, à ce moment-là, on se doit d'exprimer le même amour que l'on a pour ses parents, pour sa grand-mère, pour son frère ou sa sœur, envers chaque être humain. Et c'est là que le monde changera. C'est véritablement là que le monde sera devenu un jardin d'Éden, le paradis perdu, on redécouvrira le paradis qu'on a perdu il y a longtemps, qui sera redevenu un monde en paix, où tous collaboreront, coopéreront pour le bien commun, pour l'intérêt collectif. Voilà, que pas seulement pour la France ou pour l'Europe. Quand on me dit t'es européen, ben je dis oui, je suis européen parce que je suis né en France, donc forcément la France est en Europe. Mais je ne suis pas partisan de mettre un mur autour de l'Europe pour faire en sorte que les Européens vivent bien et que tous ceux qui sont en dehors de l'Europe, ben ils n'ont qu'à se démerder. C'est quand même affolant. Moi, je vois pas de différence entre un bébé tchèque ou belge et un bébé cambodgien ou chinois. Je qu'est-ce que c'est cette histoire de faire le de construire l'Europe? Quoi, c'est un bunker? C'est une comment dirais-je? C'est un parc Walt Disney et puis tout le monde il est gentil dans ce parc, c'est comme les Indiens que l'on a parqués hein, aux États-Unis, voilà. Alors nous, on est parqués parce qu'on est plus riche que les autres, on est plus intelligent que les autres, les Européens formidables. Mais non, je suis pas européen. Moi, je suis, pour employer un mot qui est un peu connoté, qui est galvaudé, mais je suis mondialiste au meilleur sens du terme. Moi, je pense qu'il faut pas faire les États-Unis d'Europe, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis machin chouette, non. Il faut faire une planète Terre hein, sur laquelle chaque être humain aura accepté et reconnu notre essence de fraternité envers tous les autres, non seulement êtres humains, mais tous les autres règnes. Bien sûr, le règne animal, le règne végétal, voilà. Moi, je rêve de ce monde-là. Alors, parfois, je suis un petit peu impatient. Je pense que nous dirigeons vers ce monde-là. De toute façon, je suis quand même très optimiste. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui est meilleur qu'hier et que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Hein. C'est comme la médaille de l'amour. Mais parfois, je reconnais que je suis impatient parce que... Même si moi je reconnais faire partie des favorisés. Je suis pas riche, mais j'ai pas de problème d'argent. Voilà, j'ai fait ma vie, tout va bien dans ma vie. Mais malgré tout, je perçois et je suis conscient de ce monde qui souffre, dans lequel il y a trop de gens qui souffrent. Et donc, je travaille sur le développement de ma patience, de mon lâcher prise. Je crois qu'on en est tous là.
Alors,
des fois, je suis un peu impatient.
Ouais. Pour en venir au très concret, je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure au sujet de l'amour et qui rejoint quelque chose que je dis souvent, c'est-à-dire que on a effectivement, d'une façon assez générale, une représentation très fausse de ce qu'est l'amour et souvent un peu éthérée. Et en fait, l'amour, c'est extrêmement concret. Et que ce que je dis, c'est qu'effectivement, ressentir l'amour, c'est accepter déjà de ressentir. Et ressentir ce qui est là, ce qui est présent, nos sensations, nos émotions. Ouais. Donc, c'est extrêmement concret. Donc aimer, ça se passe pas dans la tête et ça se passe pas uniquement que dans le cœur. Ça se passe dans le corps tout entier. C'est comment aimer avec son corps tout entier.
Absolument.
Et en fait, quand on fait un jeûne, par exemple, c'est-à-dire qu'on arrête de manger de la nourriture solide, en sachant que la nourriture est extrêmement liée aux émotions. Eh ben, quand on fait un jeûne et que quelque part on arrête de donner à manger à nos émotions, ça a tendance justement à faire surgir des émotions. Et que pour moi, quand on dit le jeûne, c'est un nettoyage profond, ça entraîne un nettoyage profond du corps sur le plan cellulaire, mais également de l'esprit, et que avec cet effet que ça a de faire émerger les émotions, c'est justement l'opportunité d'ouvrir notre canal. Et en général, la vie nous apporte assez souvent les exercices pratiques en lien avec les émotions qui sont bloquées, qu'on avait tendance à anesthésier auparavant. Et donc de faire ce travail de libération émotionnelle, en fait, parce que c'est ça. Pour s'ouvrir pleinement à l'amour, mais à l'amour de soi, parce que finalement l'amour, c'est d'abord et avant tout vis-à-vis de soi-même. Quand tu dis nous sommes des frères les uns avec pour les autres, mais est-ce que nous ne devons pas en premier lieu considérer que nous sommes un frère et une sœur pour nous-mêmes?
Ah mais le pardon, ça commence par soi-même, hein. C'est-à-dire exprimer la bienveillance et l'amour envers tout être vivant, qu'il soit humain ou animal, etc. c'est bien. Mais si on n'a pas commencé par s'aimer soi-même, et s'aimer soi-même, ça veut dire ben le jour où je fais quelque chose, je fais du mal à quelqu'un, eh bien je ne m'en veux pas, je répare, j'essaie de d'abord ça commence par peut-être des excuses, hein, ça commence par aller parler à la personne, et puis surtout ne pas cultiver l'idée que oh, j'ai fait du mal, je suis mauvais, je suis méchant, je m'en sors pas. Non, mais voilà. On essaiera de faire mieux la prochaine fois, on essaie de réparer le mal qu'on a fait, mais se pardonner. Comment peut-on espérer être aimé par quiconque si l'on ne s'aime pas soi-même? Et s'aimer soi-même, ça va très loin. Il y a quelqu'un, j'ai perdu son nom, le spécialiste de l'estime de soi, là.
Oui. Il y en a plusieurs.
Oui, alors j'ai son nom sur la langue, ça reviendra. Il a écrit beaucoup de bouquins, il passe toujours dans les médias, oui. Bon, etc. L'estime de soi, c'est trois petits mots qui c'est un travail, hein, mais c'était passionnant. Il y a tellement de gens qui, du fait de leur éducation, du fait de leurs parents, qui n'ont pas vécu non plus dans l'estime d'eux-mêmes, du fait de l'école, de l'expérience scolaire, de ce cursus scolaire qui parfois peut détruire des gens, du fait de beaucoup de choses, de l'héritage génétique aussi, des gens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Eh bien, je vois que ce sont des personnes qui ont du mal à avancer dans la vie. Donc effectivement, pour revenir aux jeunes par exemple, moi je fais la promotion du jeûne, j'organise cet été un grand rassemblement de jeunes, j'espère que ça sera formidable, il y a pas de raison, ça c'est dans un bel endroit tout ça. Mais quelqu'un qui va venir pour jeûner, imaginons, et qui pendant ces deux semaines entretiendrait des pensées de critiques de moi en tant qu'organisateur de la croisade pour la santé, de critiques de ses voisins qui ronflent la nuit, de critiques de je sais pas de quoi que ce soit. Eh bien, le jeûne, ce serait une opportunité perdue. Évidemment, je n'ai pas la réponse. Est-ce que le jeûne va quand même leur faire du bien? Oui. Peut-être à un niveau cellulaire, à un niveau physiologique, mais il faudra pas attendre beaucoup plus. Et je me demande, oh, tu sais Marie, on tâtonne. Hein. Moi, je suis en train de développer la médecine, enfin ma connaissance de la médecine de Hammer. C'est tellement qui est décédé il y a pas longtemps. J'écoute les vidéos de Claude Sabat, c'est passionnant. J'ai tout à apprendre, hein. j'ai des intuitions, j'ai une certaine expérience qui fait que pour moi ça résonne en moi assez facilement tout ça, et que j'ai déjà pratiqué beaucoup de choses dans ce sens-là. Mais je crois que l'humanité globalement est en train de se découvrir. De découvrir cette dimension profonde de notre être qui est d'ordre spirituel, disons-le, du non palpable, du transcendant, de ce qui est au-delà de nos perceptions sensorielles et sensuelles. Et je crois que dans les années qui plus ça ira, plus effectivement, on prendra conscience de ces dimensions subtiles de l'être humain et au-delà de l'être humain, des dimensions subtiles de la réalité physique. Ouais, j'en ai parlé dans une autre entrevue avec toi. Effectivement, aujourd'hui, la médecine quantique commence, enfin, je veux dire, la physique quantique commence à mettre le doigt sur les niveaux subtils de la réalité. Elle parle d'énergie sombre, de matière sombre, dark matter. Et effectivement, c'est ce que les ésotéristes ont toujours appelé les niveaux éthériques. physique de la matière. Voilà. Donc il y a toute une dimension qui est connue des ésotéristes, mais que les scientifiques mettent un peu de temps à redécouvrir. Et effectivement, on arrivera à un point où le vieil adage « la religion rejoint la science » sera réalité. Plutôt que religion, je dirais moi, tous les grands concepts ésotériques et spirituels seront corroborés par la science. On est à deux doigts de vérifier la réalité de la permanence de la vie au-delà de la mort. C'est-à-dire que la science a fait de grands pas dans ce sens-là, et je crois que la science est sur la bonne voie, même si ça avance tranquillement, mais enfin quand même, à l'échelle des millions d'années de l'évolution humaine, je crois que ces derniers temps, et je crois que ça va s'accélérer en plus, on fait de grands pas vers la redécouverte de concepts fondamentaux qui vont nous permettre de vivre mieux, de vivre en meilleure santé, de faire sauter les frontières des pays du monde, de nourrir chaque être humain correctement, de donner un toit digne à chaque être humain, d'envoyer chaque enfant de la Terre à l'école correctement habillé, correctement. Voilà le monde, un monde de justice, un monde de partage, de coopération auquel j'aspire.
Alors, je voudrais te poser une question parce que si on en revient un petit peu à ce qu'on dit par rapport au jeûne, le jeûne, la pratique du jeûne est une opportunité de faire un nettoyage profond et d'apprendre à s'aimer et donc de changer quelque chose à sa vie. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la pratique du jeûne, je dirais d'une façon allopathique. C'est-à-dire que on a une façon de vivre, de fonctionner, de se nourrir sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan du corps, du cœur et de l'esprit, et puis qui est un petit peu, je dirais, déséquilibré. Et puis de temps en temps, on fait un bon jeûne histoire de se nettoyer. Et puis quand on sort du jeûne, on recommence comme si rien s'était passé. Donc là, l'intérêt du jeûne, il va nous maintenir dans une forme de survie, mais sans vraiment rien changer. Alors que le jeûne, c'est vraiment une opportunité de changer quelque chose à sa vie et d'apprendre à aimer, d'apprendre à s'aimer, à se rencontrer véritablement.
Tu as tout à fait raison, Marie. Mais seulement, est-ce que chaque personne qui se lance dans un jeûne est consciente de cette opportunité? Je n'en suis pas sûr. Ça serait trop beau. Donc effectivement, tout va dépendre de la qualité de l'accompagnement, c'est-à-dire de l'animateur du jeune, de l'accompagnateur du jeune, qui si lui il est dans une perspective purement matérialiste, fonctionnelle et physiologique du jeune, eh ben c'est pas lui qui va permettre de faire ce travail et de saisir cette opportunité dont tu parles, d'accéder à des niveaux profonds de notre personnalité, de notre vie émotionnelle et mentale et spirituelle. Voilà. Alors maintenant, si le jeûneur lui-même, jeûneur, j'utilise pas de langage inclusif, jeûneur ou jeûneuse, et déjà sensibilisé à ces perceptions-là, alors de façon personnelle, individuelle, il ou elle va pouvoir effectivement saisir cette opportunité et faire son travail. Moi, je n'ai jamais jeûné en groupe, enfin, sauf lorsque j'ai organisé mes deux croisades précédentes, effectivement, nous étions une cinquantaine chaque fois. Mais sinon, ça faisait beaucoup plus longtemps que je jeûnais. Je ne suis jamais, d'ailleurs, à l'époque, les cures de jeûne n'existaient pas en termes de lieux où l'on va. Il n'y avait pas de stage de jeûne. Aujourd'hui, il y en a presque 200 en France. Je les ai répertoriés sur mon site Croisade pour la Santé où je nais. Ah non, parce que, attendez, Croisade pour la Santé, oui, je l'ai changé. Mais enfin, si vous faites où je nais dans Google, je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez trouver un lieu d'accueil pour aller jeûner, vous faites où je nais sur Google et vous tomberez sur une page de mon site. Bref. Donc voilà, je n'ai jamais jeûné en groupe, je n'ai jamais été accompagné, sauf que moi, dès le départ, j'avais quand même des lectures, des pratiques. Moi, j'ai appris la méditation transcendantale en 1977. Donc, depuis 1977, je médite. Donc, et je lis des livres sur la spiritualité, je m'inspire d'auteurs qui m'ont véritablement bouleversé, qui m'ont aidé à transformer ma vie. C'est pas que le jeûne. D'ailleurs, je le dis très clairement dans mes conférences, hein, je ne parle pas que du jeûne, forcément, je parle très précisément de tous ces outils de nettoyage physiologique, la cure du foie, l'hygiène intestinale, Amaroli, etc. Et de plus en plus, je parle du pardon, du service, de l'art de bénir, de l'art de bénir, et de donner du sens à sa vie, la réalisation du soi, les trois critères de la réalisation du soi, c'est le détachement, alors, faudra que j'y revienne tout à l'heure, mais parce que je perds un peu la mémoire là. Mais bref, je veux dire, tu vois, il y a effectivement tout ce travail à faire, la gestion de nos pensées, par exemple. Allez, je vais faire une parenthèse sur la gestion de nos pensées. J'avais 18 ans, je voyageais en Amérique, ou 19 ans, et j'ai découvert tous ces auteurs, parce que les Américains, ouais, il y en a beaucoup, qui ont développé l'art de gérer ses pensées, c'est-à-dire la pensée positive, les Joseph Murphy, les Ogmandino, etc. Et j'ai découvert que tous ces gens-là s'étaient inspirés de qui? D'Émile Coué. Et moi, j'étais français, il a fallu que j'aille en Amérique pour découvrir l'existence d'Émile Coué. Et j'ai découvert que finalement, Émile Coué était un génie. Et donc, ça fait maintenant 40 ans, encore plus de 45 ans, que j'ai décidé d'apprendre à gérer mes pensées. Et donc, je me suis créé, comme le conseil Émile Coué, je me suis créé des sortes de mantras, des phrases que je me répète quand, le plus souvent possible, ça peut être le soir avant de m'endormir, ça peut être au réveil, ça peut être lorsque je suis en voiture, ça peut être lorsque j'ai un peu d'espace libre mental entre deux activités, ça peut être n'importe où, n'importe quand, dans la nature, en me promenant, en faisant n'importe quoi. Je répète en boucle ces mantras. Eh bien, Marie, plus de 40 ans plus tard, je suis devenu précisément tout ce que ces mantras décrivent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement ce que nous mangeons, nous sommes véritablement aussi et peut-être surtout ce que nous pensons. C'est-à-dire que notre subconscient est un disque dur qui va reproduire forcément uniquement ce que l'on aura sauvegardé sur ce disque dur. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple qui va pouvoir inspirer nos auditeurs. Je pense qu'il est arrivé à tout le monde, dans sa voiture, à un moment donné, de se dire, oh là là, je viens de faire 50 kilomètres et je n'ai strictement aucun souvenir de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vu, de s'il y avait un feu rouge, s'il y avait des stops, du paysage. Je ne me souviens de rien. Et ça, c'est passionnant, parce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a quelqu'un en nous, une dimension de notre être plutôt, qui a passé les vitesses, qui s'est arrêté au feu rouge, au stop, qui a laissé les priorités, qui a conduit autour des ronds-points, qui a tout fait sans que nous en soyons conscients une seconde. On est tous passés par ces expériences de déconnexion et au moment donné, on revient à la réalité, on se dit, mais voyons, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je viens de faire? Eh bien, pourquoi c'est comme ça? Ça s'explique très simplement. C'est le résultat d'un apprentissage. Nous n'avons pas besoin de réfléchir pour conduire une voiture. Nous n'avons pas besoin de réfléchir pour faire du vélo. nous apprenons à jouer du piano. Bon, moi, je suis pianiste, effectivement. Quand je joue les trucs, ça doit impressionner les gens qui me regardent parce qu'ils disent, mais c'est pas possible, il a 10 doigts et chaque doigt tombe spontanément sur la touche qu'il faut. Mais ça, c'est un apprentissage. Comme les langues étrangères, comme la cuisine, comme n'importe quoi. Et cet apprentissage permet à notre subconscient de s'approprier des responsabilités et des tâches. Et après, le subconscient n'a plus besoin de notre esprit conscient pour faire tout ça, pour jouer du piano, pour etc., pour conduire. Et donc, j'en reviens au cœur de notre histoire, c'est-à-dire que si dans notre subconscient, on sauvegarde des informations, on imprime, on sauvegarde, on enregistre, voilà, enregistrer, c'est le mot, des informations néfastes à la vie, néfastes à la santé, des peurs, des rancœurs, je le répète, des haines, des animosités, tout ça, eh bien, notre subconscient, qui est tout bête, hein, il ne réfléchit pas, le subconscient, c'est un disque dur, il n'est pas intelligent, eh bien, il va reproduire dans notre vie exactement ce que nous aurons enregistré. Et à l'opposé, si on cultive par la méthode Coué ou d'autres méthodes semblables, hein, toutes ces pratiques de culture de la pensée créatrice, de la pensée positive, si on enregistre dans notre subconscient des pensées d'amour, de fraternité, d'abondance, de richesse, eh bien, le subconscient va reproduire ça dans notre vie quotidienne et nous allons vivre dans l'amour, dans l'abondance, dans le pardon, dans la santé, etc., etc.
À condition, bien entendu, qu'on passe à l'action, parce que penser positif, ça ne veut pas dire qu'on passe à l'action.
Oui, mais ça sera spontané, parce que tu seras amour, tu seras dans l'abondance, c'est-à-dire que tu auras suffisamment d'argent. Évidemment, ta responsabilité après, c'est d'utiliser cet amour et cet argent dans tes gestes, dans ta vie quotidienne. Mais ça, après, c'est facile, parce que quand tu es, évidemment, quand tu es riche, tu peux dépenser, oui, mais quand tu es riche sans amour, ça va pas. Mais comme t'auras, moi, j'ai plusieurs phrases, hein. J'ai une phrase, ben voilà, je pourrais les dire, mais celle de Coué, je la prononce aussi. Rappelons la phrase de Coué. Mais moi, je la dis en anglais parce que, encore une fois, je suis très anglophone et je l'ai apprise en anglais. Mais en français, c'est, voyons, je me concentre un peu. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Mais ça fait 45 ans que moi, je dis « Every day, in every way, through the grace of God, I get better and better. » J'ai rajouté une petite phrase. Et de toute façon, la traduction anglaise est meilleure parce que je vais de mieux en mieux, c'est je vais de mieux en mieux physiquement, je vais de mieux en mieux, je me porte mieux. Alors qu'en anglais, I get better, là je fais une petite parenthèse pour les anglophones un petit peu, ou les gens qui, I get better and better, ça ne veut pas dire simplement je vais de mieux en mieux, ça veut dire je deviens meilleur, chaque jour meilleur, I get better and better. Donc ce n'est pas simplement mon corps physique, c'est moi, je deviens meilleur. Je deviens meilleur et meilleur, meilleur de mieux en mieux. Donc, enfin, voilà, bref, c'est un travail de toute une vie, mais c'est extrêmement puissant. Ça contribue.
Alors, moi, ma petite phrase du matin, la première qui vient le matin quand j'ouvre les yeux, elle est automatique et je dis bonjour à la vie. Et je dis merci. Et je dis un nouveau jour pour aimer.
Bravo.
Un nouveau jour pour apprendre à aimer. C'est la première phrase qui me vient.
Bravo. Alors moi, évidemment, j'ai une autre dimension parce que j'ai une relation personnelle avec Dieu. Et donc, moi, je lui parle constamment. Et c'est lui que je remercie. Bon, on n'est pas obligé de croire en Dieu, mais bon, je trouve que c'est dommage de ne pas mettre des mots sur ce qu'est finalement notre logos, hein, cet être qui s'exprime à travers notre planète Terre. Bref, Alors moi, je vais donner un outil à nos auditeurs, parce que je suis toujours dans la pédagogie. Moi, j'aime bien prendre les gens par la main et puis les accompagner, leur faire découvrir des choses qui, moi, m'ont transformé, etc. Moi, je trouve que au-delà des mots qui sont importants, on vient de le voir, il y a des tests. Parce qu'on peut se demander, oui, est-ce que véritablement je suis dans l'amour? Est-ce que, eh bien, il y a des tests très simples. Est-ce que nous sommes capables mentalement d'embrasser, de véritablement, physiquement, on le fait mentalement, mais on se visualise embrassant les gens qui nous ont fait du mal, les gens qui ont violé, pourquoi pas, notre enfant et qui l'ont martyrisé, qui l'ont tué, des parents qui vivent ce calvaire. Tu te souviens, Marie, de cet homme qui a écrit un livre récemment? Il a perdu sa femme au Bataclan. Sa femme a été tuée par les terroristes du Bataclan. Lui, je ne sais pas s'il y était, mais en tout cas, il a survécu. Et il a publié un livre. Tu sais comment il s'appelle son livre? Il
Non.
s'appelle Vous n'aurez pas ma haine. Quand je dis ça, j'ai envie de pleurer là, tu vois? Parce que qu'est-ce que c'est beau! Cet homme, on lui a pris l'être auquel il tenait le plus au monde. On lui a pris l'amour de sa vie, sa femme, sa compagne. Eh bien, il n'a pas de haine. Et il a même écrit un livre intitulé Vous n'aurez pas ma haine. Ce gars-là, c'est un saint. Pour moi, c'est un être d'exception, c'est un être de lumière. J'aimerais beaucoup connaître cet homme. Des gens comme ça ne peuvent qu'éclairer le chemin de milliers d'autres. Je suis tellement heureux qu'il ait écrit un livre. Je ne l'ai pas lu, mais j'espère que ce livre sera lu par beaucoup, beaucoup de gens. Voilà, ça, ce sont des tests. Évidemment, c'est facile d'aimer ou de pardonner à quelqu'un qui nous a menti ou qui nous a... Bref. Mais quand on voit à quel point le seul fait d'être quitté par un compagnon ou par une compagne génère des monceaux de haine, de rancœur, et que l'on cultive ça, et que l'on se baigne dans cette fange émotionnelle et mentale, et qu'on voit ça tous les jours à la télé, dans des magazines, on interviewe des gens qui... Mais heureusement, on interviewe aussi des gens qui sont dans l'amour de plus en plus, c'est vrai. Mais je
Mais
me
en fait,
dis...
Bernard, tu crois pas que quand même ce qui est essentiel, parce que pour arriver à ce pardon, tu sais, moi j'ai fait tout un chemin dans ma vie et puisque tu en parles, moi j'ai embrassé l'homme qui m'a violée dans l'enfance et je l'ai serré très fort dans mes bras parce que j'ai compris, parce que ça a été tout un chemin de mise en sens, j'ai compris le sens de tout ça. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire ce presque un saut quantique, quoi. À un moment donné, tu regardes la situation sur un autre plan, d'une façon plus générale, et à quel point toute chose est juste. Et que le pardon, c'est quelque chose qui se reçoit. C'est pas quelque chose qui se donne. Et que il faut faire. Moi, je pense qu'il faut être très vigilant parce que à vouloir pardonner, à vouloir aimer, on en oublie. C'est souvent, on en oublie de s'aimer soi-même et ça peut être au sacrifice de soi. Le pardon, c'est pas quelque chose de mental
C'est
et
sûr,
c'est
c'est sûr.
vraiment quelque chose de très profond à l'intérieur de soi. Et c'est quelque chose qui se reçoit. Pour moi, ça a été, je ne voulais pas pardonner. Je ne voulais pas pardonner. Parce que pour moi, le pardon, c'était la soumission, c'était l'obéissance, c'était oublie. Tu nous fais chier avec tes histoires. Tu vois, et je ne pouvais pas oublier parce que tout mon corps sécrétait et que j'en crevais. Et donc j'ai été à la rencontre de toute cette histoire, de mes blessures, de mes souffrances. J'ai tout pris à bras le corps et j'ai pensé tout ça. Pensé avec un A, pensé avec un E, parce que moi aussi j'ai écrit des livres. Et en fait, la cerise sur le gâteau, c'est que le pardon m'a été donné. C'est ce que j'appelle la guérison spirituelle, où à un moment donné, j'ai vécu un éveil, une ouverture du cœur qui m'a permis ce chemin d'amour. Et qu'aujourd'hui, je suis en capacité de comment dire, d'être en relation avec des personnes qui m'ont fait souffrir enfant et aujourd'hui que j'aime profondément parce que j'ai une autre vision de la réalité de la vie. J'irais une vision beaucoup plus unifiée. Mais c'est passé par tout ce chemin de mise en sens et de rencontre avec soi-même, avec moi-même, avec la vérité et la vérité de qui je suis profondément. Donc ça, c'est très important. J'avais vraiment envie de dire ça sur le pardon parce que ça ne peut pas être une démarche mentale.
Ah, mais c'est clair. C'est très beau ce que tu dis, Marie, bien sûr. Le pardon, c'est une lumière qui t'entoure, c'est une révélation, bien sûr. On pourrait dire, oui, je te demande pardon, mais ne pas en penser une miette, bien sûr. Non, c'est le pardon, ce n'est pas ni oral, ni mental, c'est une conscience, c'est un état de conscience.
Tout à fait.
Et c'est merveilleux ce que tu dis, bien sûr.
C'est véritablement un état d'amour intérieur et de plénitude. C'est vraiment considérer l'autre comme étant une part de soi. C'est
Oui.
Finalement, je dirais, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de problème. J'ai fait une émission qui s'appelait comme ça, pas de problème, et que tout est expression d'amour. On m'a dit donc c'est en train de faire de l'orage. J'espère que ça va pas couper la connexion, mais que finalement, moi, ça m'a réconcilié avec la matière, ça m'a réconcilié avec le masculin, ça m'a réconcilié avec la vie, ça m'a réconcilié avec Dieu le Père, avec enfin, je veux dire.
Bien sûr. Si on se rappelle ce que je disais plus tôt, que nous sommes tous des étincelles divines, il faut bien comprendre que le violeur, c'est aussi une étincelle divine, qu'essentiellement, il est divin. C'est une âme qui souffre. On sait que l'immense majorité des violeurs ou des pervers sexuels sont des gens qui ont été eux-mêmes victimes de violeurs et de pervers sexuels.
Mais tout à
On
fait.
le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, rajouter de la haine à l'ignominie de l'acte commis, ça ne va guérir rien du tout. Au contraire, on va se charger encore une fois nous-mêmes de ce karma de haine, parce que la haine est un poison qui nous tue peu à peu. Alors que seul l'amour purifie, seul l'amour guérit. Et donc, arriver à bénir, tu te rends compte, c'est beau ce que tu as dit, arriver à bénir celui qui nous a violés, celui qui nous a,
tués, psychiquement.
Volés, celui qui est rentré par effraction dans notre maison, c'est terrible. Moi, j'ai connu des vols, beaucoup de gens ont été volés, ont été. Voilà, moi, maintes fois dans ma vie. Bref, il y a des relations karmiques aussi. J'ai certainement, quelque part, entre guillemets, mérité ça. Qui te dit que dans une vie précédente, tu n'avais pas toi-même porté préjudice à ton violeur, tu vois, ça, les lois du karma sont tellement, tellement complexes. Les seigneurs du karma sont des êtres d'une évolution extraordinaire. Ils sont trois sur cette planète. Enfin bon, ce sont des concepts ésotériques. Une petite parenthèse. Mais il ne nous appartient pas de décortiquer notre karma. On ne peut que s'en libérer, justement, en développant ce dont nous parlons. L'amour dans toutes ses expressions, la bienveillance, le pardon, le service désintéressé à l'autre, s'il a besoin de nous, eh bien, on donne notre aide, que ce soit de l'énergie, de l'argent, de l'aide physique, etc., du temps. Et ça, ce sont des expressions de l'amour. La justice, contribuer à ce que ce monde devienne un monde plus juste. Voilà, travailler s'associer à des s'inscrire dans des associations, devenir membre de tas. Il y a mille façons de servir et d'apporter notre petite goutte d'eau pour que finalement la coupe de cette planète déborde d'amour. Et je crois que moi, je sais qu'on y est.
Ouais, moi je pense que la toute première chose à faire c'est de, comment dire, s'autoriser à être ce que nous sommes et à partager nos dons et nos talents, ce qui fait de nous des êtres uniques et merveilleux. Qui suis-je pour oser être ce que je suis? Eh bien, justement, à un moment donné, c'est ça, s'aimer, et s'aimer de façon inconditionnelle. C'est oser être, vraiment. Tu vois, moi, c'est vraiment ce cheminement-là que j'ai fait dans ma vie, ces sauts dans l'inconnu, ou à un moment donné, ne serait-ce que d'animer une web TV, tu vois, oser me rendre visible, aller dans la lumière de l'écran, de m'adresser à des centaines de personnes. Ça a été un challenge, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, fais-le, tu vois. Et puis, il s'avère que j'y prends beaucoup de plaisir et que j'ai certainement un talent pour le faire, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de retours qui me parlent de ma façon, justement, d'aborder les intervenants et les sujets, etc. Donc, c'est quand on ose partager ses dons et ses talents, alors c'est là qu'on nourrit profondément notre être et qu'on épanouit notre âme et qu'on laisse l'amour se donner à travers nous.
Mais tu vois, moi j'ai connu un petit peu la même évolution, puisque je suis devenu une personne un petit peu connue dans certains milieux de la santé, tout ça. Donc je fais des conférences devant des auditoires, et comme tu le dis toi-même, c'est quelque chose de qui nous a poussé. Il y a beaucoup de gens, mais voilà, qui ressentent ça. Il faut aller au bout de notre, effectivement, affirmer ce que nous sommes dans notre imperfection, avec nos faiblesses, nos défaillances, nos carences. C'est pas parce qu'on parle à la télé, à la radio, sur Internet ou en conférence que nous sommes des gourous, qu'on a tout compris. Mais non, 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 non.
C'est pas vrai,
on
oui.
Partage et puis on avance soi-même. Tu sais, j'ai une phrase que j'aime bien. Je crois qu'elle est de moi. C'est que on n'enseigne jamais si bien que ce qu'on dont on a soi-même le plus besoin.
Exactement. Alors ça, j'aime beaucoup aussi. Effectivement, ouais. Et ce que je voulais dire, c'est que les situations difficiles qu'on rencontre à l'extérieur sont souvent l'expression de parties de soi dont nous sommes coupés, que l'on juge inacceptables. Et tant qu'on ne s'est pas relié à ces parties de soi-même, tant qu'on ne les a pas accueillies en nous, alors elles se présentent à l'extérieur, systématiquement. Donc c'est pour ça que quand tu dis, mais finalement, aimer ce qui est, eh ben c'est vraiment tout ce processus, cette alchimie intérieure qui se met en œuvre, en fait. Hein. Voilà. Et alors, du coup, là, l'heure passe quand même.
Il y a des questions, peut-être?
Bah oui, justement, c'est pour ça. Il y a une question. Enfin, il y a eu des réactions, mais il y a notamment Julie qui avait une question concernant les cures de jus. Quel est votre avis sur les cures de jus et l'allaitement? Je ressens un gros besoin d'allègement, ne pouvant jeûner, allaitant mon bébé. Merci à vous.
Alors, allaitant, si tu allaites ton bébé, alors. Les cures de jus sont très, très à la mode. Elles sont, bien sûr, très bénéfiques, mais en tant que cure. C'est-à-dire que je ne suis pas partisan de ne se nourrir que de jus. On rentre dans un processus très détoxifiant, c'est une cure très efficace. On peut rester sur des jus frais, surtout végétaux, hein. Moi, j'ai les cures de jus de fruits, j'y crois pas du tout. Mais sur une période limitée. Le problème majeur de l'alimentation moderne, c'est que justement, il n'y a pas de fibres. Parce que l'on mange trop cuit, parce que l'on mange tout mou, et si on prend des jus, il n'y a pas de fibres non plus. Donc, pour une période limitée, ça peut être très bien. C'est très facile à digérer. C'est très nutritif. Pour
c'est
ceux qui
ne
peuvent pas.
Très minéralisant, ça apporte énormément de
très minéralisant. Ça remplacera pas un jeûne. Bon, mais pour ceux qui sont pas dans une période où ils peuvent jeûner, on peut toujours se faire un litre de jus le matin. Et je ne vais pas décrocher, pardon. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Et tout au long de la journée, on s'emporte une bouteille avec le jus et on va passer sa journée à siroter son petit jus. Tout ça, c'est très facile pour ceux qui ne peuvent pas s'isoler et rentrer dans un jeûne. Mais moi, je ne prends jamais de jus. Et je vais faire la parenthèse des jus de fruits. Il y a des gens qui me disent, oh, moi, je prends tous les matins un jus d'orange avec la, ils sont intimement persuadés que, qu'ils ont un régime sain et que, et qu'ils se font du bien. Ce n'est pas vrai. Dans un verre de jus d'orange, tu vas avoir, peut-être le jus de trois oranges que les gens vont boire en quelques secondes. Et ça va être véritablement une agression glucidique pour le corps. Le bon Dieu n'a pas prévu que de nous créer avec des extracteurs de jus. Excuse-moi, mais voilà, il n'a pas créé les extracteurs de jus. Donc, moi, je mange les fruits tels que le bon Dieu les a créés. Ça veut dire avec la pulpe. Et donc, je vais mettre du temps pour manger trois oranges. Et puis il y aura la pulpe, le corps va pouvoir s'adapter à cet apport glucidique. Mais sinon, le foie, il va flipper, il va arriver tout ce sucre d'un seul coup, et bien il ne sait pas le traiter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le stocker. Forcément, le foie, il est prévu pour stocker. Non, donc moi je conseille aux gens, plutôt que de prendre des jus de fruits, de manger des fruits frais, de saison, bien mûr, avec la pulpe, avec la peau. Je ne pèle jamais rien. Bon, les oranges, oui, je pèle les oranges, des choses comme ça. Mais je ne pèle jamais une poire, je ne pèle jamais une pêche, je ne pèle jamais une pomme. J'encourage les gens à apprécier ces peaux qui sont pleines de nutriments. Et j'irai même plus loin, je dirais, même si les fruits ne sont pas bio. Ah là, je vais faire jaser dans les chaumières. Il y a plein de gens qui vont se tordre sur leur siège.
Oui.
Même si les fruits ne sont pas bio, je m'en fous parce que je développe une telle immunité naturelle que mon corps va être capable de lutter contre les quelques produits chimiques, les quelques résidus qu'il va y avoir dans d'éventuels fruits. Quand je vois la gueule des fruits bio que l'on nous propose, franchement, je préfère les fruits non bio que j'achète, si possible, chez le producteur, même s'il n'est pas labellisé bio, m'en tape.
Je suis d'accord parce que avec toi complètement.
Les pommes bio qui viennent du Chili ou d'Afrique du Sud, franchement, on est tombé sur la tête avec l'empreinte écologique désastreuse de ces fruits qui ont parcouru le monde entier avant d'arriver sur nos étals, qui ont été forcément cueillis verts. Alors, même s'ils sont bio, je m'en fous. Moi, je mange local.
Voilà, local, c'est pareil.
Et si c'est pas labellisé, ça m'est complètement égal. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte de développer une immunité naturelle. Parce que de toute façon, manger bio, on respire quand même. Et on respire des produits chimiques. Je suis désolé, mais on vit dans un monde très pollué, plus ou moins selon l'endroit où l'on vit. Mais notre air est vicié dans de très, très nombreux lieux. Donc, de toute façon, il va falloir faire en sorte que notre corps soit capable de lutter contre ces agressions, etc.
Et puis, tout à l'heure, tu parlais de l'art de bénir, mais je veux dire, l'art de bénir, la nourriture que nous mettons dans notre corps développe cette immunité naturelle.
C'est quelque chose dont personne ne parle jamais, mais bien sûr, toutes les religions ont prévu des sortes de mantras, de bénédictions. Alors ça, c'est plus ou moins perdu selon les religions, mais c'est pas pour faire plaisir au bon Dieu, hein. C'est parce que effectivement la projection mentale qui s'opère, ce sentiment de gratitude envers cette nourriture, cette énergie qui est une énergie divine finalement, eh bien, ça va effectivement purifier dans une bonne mesure cette nourriture et nous éviter les conséquences dommageable d'éventuels résidus chimiques, etc. Moi, si on me propose, j'ai choqué beaucoup dans une de mes vidéos où je disais que je n'étais pas un intégriste du végétarisme. Quand je suis chez moi, et bien sûr, il n'y a jamais de viande chez moi. Il n'y a jamais d'œuf, il n'y a jamais de beurre, il n'y a jamais de lait, il n'y a jamais, chez moi, il n'y a pas grand chose, il n'y a que des fruits et des légumes. Mais écoute, si je suis invité à manger un couscous, eh bien, je vais bénir le couscous et je vais manger le couscous avec la viande. Ce n'est pas grave. Nous sommes des êtres imparfaits. Nous sommes dans une époque de transition. Et je vais bénir ce couscous en pensant peut-être que les animaux qui sont dans ce couscous n'ont pas été tués proprement, si tant est qu'on puisse tuer des animaux proprement. Mais bon, oui, je crois que des chasseurs, il y a très longtemps, ils tuaient des animaux proprement, ils les tuaient avec amour, ils les tuaient juste pour se nourrir. Enfin bref, je veux dire, gardons-nous de l'orthorexie, c'est-à-dire de ce désir pathologique d'être parfait, ici et maintenant, tout de suite. Non, soyons dans l'acceptation, dans la convivialité, dans l'amour, dans la bénédiction.
Dans la douceur vis-à-vis de soi-même, parce que finalement,
dans la douceur.
Ce qui nous rend malade, ce sont les dogmes, qui sont des rigidités que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire, si je fais ça, je ne suis pas aimable, je ne suis pas acceptable. Si je mange ça, ce n'est pas bon, c'est mauvais. Et c'est comment on s'auto-flagelle sans arrêt, quoi. Hein.
Exactement, exactement.
Bon, écoute, il va falloir qu'on avance un petit peu, parce que là, alors attends, il y a Julie qui dit « Merci, donc pas de souci pour les toxines dans le lait. Poser des intentions pour que les toxines ne passent pas dans le lait, peut-il aider ? Merci pour tout. »
C'est gentil, oui, le lait maternel. Moi aussi, j'ai été nourri au sein de ma mère. J'ai été un enfant très malade. Mais bon, je suis devenu un vieux en pleine santé. Et puis voilà, j'ai quand même réussi à me sortir de tous mes problèmes de santé.
Et puis ce que je voudrais dire, qui est vraiment fondamental, c'est que les premières toxines qui passent dans le lait maternel, ce sont nos pensées.
Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'amour de la mère va se transmettre forcément dans les cellules de ses enfants.
Voilà, donc c'est et oui. Donc, écoute, je voudrais continuer quand même nous accorder 10 minutes là pour que tu nous parles un peu de cet événement de cet été. Donc, 15 jours, un grand rassemblement de jeûneurs où il va y avoir des intervenants, des conférences, des ateliers. Où est-ce que ça en est tout ça?
Ben ça s'avance, on est déjà nombreux. Allez, je laisse le chiffre encore secret, mais bon, ça va être une grande fête du jeûne. Donc je rappelle pour ceux qui savent pas que j'ai sédentarisé la croisade pour la santé, qui était une longue marche. On avait marché 14 jours jusqu'à Paris sans manger il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ça aurait été très difficile d'héberger chaque jour des gens, tant de gens dans un endroit différent. Donc, on a pris un lieu qui est magnifique, qui est mon futur lieu d'accueil pour des séjours de détoxination, de jeûne, etc., de cure naturopathique. Et donc, en pleine campagne, on va tous camper et jeûner pendant 14 jours. Et donc, comme on aura beaucoup de temps à passer ensemble, puisqu'on n'aura pas besoin de marcher tous les jours, on aura un programme d'activités diverses, variées, ludiques, intellectuelles, thérapeutiques. Il y aura des conférenciers très formidables. Allez voir donc le site croisadepourlasanté.org, croisade pour la santé d'un seul mot. Et vous aurez déjà dans le lien programme, tous les détails pour venir. C'est dans le sud de la Gironde.
C'est du 14 juillet au 28 juillet.
Au 28 juillet, voilà. On préfère des gens qui viennent les 2 semaines, mais on accepte aussi ceux qui, pour diverses raisons, ne pourraient venir qu'une semaine. Voilà.
Et donc, moi, j'y serai. Je viendrai faire une conférence, proposer des ateliers.
Il y aura Alain Scoï, il y aura le docteur Didier Tarte, il y aura docteur Tal Chaleur, mon ami de toujours, de 40 ans, avec Johan. Ils vont venir passer 4 jours. Il y aura beaucoup de conférenciers sur des sujets très intéressants. on va jouer, on va chanter, on va faire de la musique, on va être bien ensemble en jeûnant pour témoigner, parce que le but, c'est pas juste de faire un stage de un séjour de jeûne. Non, 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 la croisade pour la santé a été créée pour sensibiliser le public le plus large aux merveilleux bienfaits du jeûne et plus généralement des moyens naturels de santé. Donc, on parlera aussi de pardon. Il y a la présidente de l'association Pardon International qui viendra faire une intervention dont je suis sûr qu'elle sera très intéressante. Il y a une association qui a été créée par Olivier Clerc, mon ami de tant d'années, et qui travaille lui aussi sur ce créneau-là, qui a créé l'association Pardon International. Et donc, sa présidente va venir nous rendre visite et faire une conférence, un atelier et beaucoup d'autres choses.
Super. Et donc, j'avais envie de dire aussi deux mots parce que finalement, à partir du 29 juillet, pour une semaine, je propose un stage sur ton lieu. Un stage qui s'appelle « S'ouvrir à la prospérité ». Et dans lequel on va aborder plein de choses et notamment comment fonctionne cette loi d'amour, comment vivre l'instant présent, comment libérer son intuition, comment c'est aussi un moment où on va sortir du jeûne pour aller dans une nourriture frugivore. Donc, on va mettre toujours pareil le corps au repos et dans un état qui permette cette libération émotionnelle. Comment s'ouvrir à la prospérité de la vie et du vivant, quoi. Et en fait, tu te lances dans cette aventure avec moi, puisque on va vraiment être en cohérence sur le fond et sur la forme, parce qu'on a complètement lâché le cadre.
Sur les prétentions matériel,
ouais. Puisque en fait on laisse le stage en libre participation, aussi bien l'hébergement que l'animation. Alors on vous donne le coût, donc toutes les explications sur mon site, lecoeurconscient.fr, vous pouvez cliquer sur ce stage qui va donc se dérouler fin juillet début août sur 6 jours, et chacun sera libre de donner en conscience.
C'est une expérience que je voulais faire depuis longtemps, être dans la conscience et dans la confiance de l'autre. Effectivement, c'est un lieu qui coûte de l'argent. D'abord, il a coûté de l'argent pour l'acquérir. C'est une très belle grande ferme à la campagne, vous verrez. Et d'ailleurs, il peut y avoir des gens qui vont participer à la croisade pour la santé, puis qui resteront pour prolonger avec toi. Donc, ils seront en pleine reprise alimentaire, mais ça sera bien. Voilà, si vous avez assez de vacances pour prolonger. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire l'expérience véritablement du partage et de la transparence, puisque on a toujours des gens qui, bon, ceci dit, à plus ou moins, ils ont, comment dirais-je, c'est pas toujours fondé ce qu'ils avancent. Il y a toujours des gens qui critiquent le prix des stages, hein. Oui. Et on s'est dit, voilà, on va faire au chapeau. Et puis, on verra ce que ça donne.
Voilà. En sachant que la seule chose qui sera pas au chapeau, ça sera la participation au niveau de la nourriture qui sera partagée à prix coûtant. Il me semble que c'est normal.
Voilà, on fera le petit pot. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui.
Et pour le reste, voilà. Eh bien, écoute.
Donc, tu n'as pas donné l'endroit où aller pour les détails sur ton stage.
Alors, je viens de le dire. Donc, c'est sur mon site lecoeurconscient.fr, dans la rubrique actualité. Ouais. Vous pouvez y trouver tout ce que je propose. Et d'ailleurs, prochainement, il va y avoir des ateliers en ligne, et notamment un atelier que je propose vendredi soir à 20h. Où je propose de répondre à vos questions, sur un thème de comment vivre en amour avec la vie, en fait, hein, parce que moi c'est mon thème récurrent, hein, comment permettre à l'amour de se donner à travers nous, c'est ce qui m'anime moi dans ma vie, c'est ce que je mets en mouvement dans ma vie, et c'est ce que je transmets certainement, parce que comme tu disais si bien tout à l'heure, c'est ce que j'ai le plus besoin d'apprendre. Donc voilà, donc un atelier vendredi soir, et puis il va y avoir un atelier aussi avec Alain Scoï sur qui répondra à vos questions concernant la cause profonde de vos symptômes, de vos pathologies, de voilà, et donc c'est toujours des histoires d'amour, hein, voilà. Et puis il y a aussi un atelier avec Nelly Grosjean qui viendra répondre à toutes les questions autour de la détox, le nettoyage, les purges, les huiles essentielles, les cures de jus, enfin, etc. Donc voilà, donc ça c'est des ateliers très concrets. Et puis bon, il y a tous les stages que je propose pendant l'été, hein, il y en a trois, début juillet, juillet août et fin août. Donc voilà, en sachant qu'à chaque fois.
Je vais en profiter pour passer une petite annonce. C'est ouais. Effectivement, je suis très heureux que tu sois la première animatrice de stage à utiliser mon lieu. Mais si voilà, je suis disponible pour recevoir d'autres groupes à partir de maintenant dans ce merveilleux endroit au sud de la Gironde avec 5 chambres plus possibilité illimitée de camper dehors dans un environnement privilégié, calme, etc. Magnifique.
Alors le lieu, voilà, le lieu exact, il s'appelle.
Alors c'est à près d'un petit village qui s'appelle Gironde-sur-Dreau. Et le lieu dit, c'est Labeq. Labeque. Labeq. Sur Google, sur Géoportail, sur Google Maps, on trouve ça très bien. Et Gironde-sur-Dreau. Dropt en Gironde, donc. Mais okay. Vous avez tous les détails sur le site Croisade pour la Santé. Puis voilà, c'est un site qu'on a acquis il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et que il faut nettoyer. Il y avait beaucoup de ronces, il y a un petit étang, il y a un vieux lavoir, il y a un vieux pigeonnier. Enfin, je vois tous les jours des faisans, des biches, des hiboux, des lapins sauvages partout qui courent. Enfin, c'est vraiment idyllique.
Voilà, super. Donc, la nourriture frugivore, ça sera aussi aller manger les fruits sur l'arbre, hein, puisque tu disais qu'il y avait des vergers, tout ça.
Il y a des fruits partout, ouais.
Ok, c'est super. Bon, écoute, voilà, on va s'arrêter là. Tu as un petit mot de la fin?
Non, je te remercie, Marie, pour tout ce que tu fais. Merci aux auditeurs et auditrices. Et puis, voilà, vous êtes les bienvenus pour aller sur mon blog également, ou pour regarder ma chaîne YouTube où je publie pas mal de vidéos régulièrement. Et merci pour votre attention.
Ok, je te laisserai aller regarder le chat quand tu vas sur YouTube. Il y a plein de petits mots qui ont été adressés.
Super.
Voilà.
C'est gentil.
Ok, au revoir Bernard.
Merci.
À très bientôt. À très bientôt. Bonsoir à tous. Et à très bientôt.